Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes, Sylvie Neve nous présentera son poème provisoire, puis dans 30 minutes, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1042. Jean au micro, salut! Musique pour commencer avec ZX et Tortoise rassemblés.
Thank you.
tortoise, the eggs in the fish tank. Mahmoud Ahmed. Extrait du premier album consacré à ce musicien éthiopien, paru initialement en 1986 sous le label Crammed, avec des enregistrements de Mahmoud Ahmed de 75, entre 75 et 78, repris dans la série Éthiopique.
Never could you. sam, saatim sam, ilegnal sam, deretien sam, yamegnal sam, workhabim sam, ilegnal sam, tatienim sam, yamegnal sam.
Mahmoud Ahmed, et juste après, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve.
Bonjour, tumulte. Le mois de juin a commencé dans les cris et le sang au large de Gaza. Blocus Gaza débloque Chorus. Cannelle, sauge, coriandre. Cannelle, sauge, coriandre. La cannelle est permise. Pas les fruits au sirop. La sauge est interdite. La coriandre est interdite. Les désodorisants sont permis. Orient, ordre, désordre. La confiture est interdite. La cannelle est permise, mais pas les fruits au sirop. Les pommes de terre sont permise, pas la sauge. Les peignes et les brosses, permis. La confiture est toujours interdite. La terre de Palestine, interdite. La cannelle est permise, pas les fruits au sirop. Sauge, coriandre, confiture, interdite. La cannelle est permise, mais pas les fruits au sirop. Les pommes de terre sont la terre de Palestine et les hommes sont terrés, tunnels. Les sardines sont permises. Chocolat, interdit. Café, interdit. Engrais, interdit. Ciment, interdit. Chemise moisisse, fraise pourrisse. Container, checkpoint, chemise, fraise moisisse, pourrisse. Blocus Gaza débloque Chorus. La cannelle est permise. Le curry est interdit. En rire est permis. Le ciment interdit. Rêver, rêver, rêver. Aujourd'hui, le blocus est allégé. La cannelle est permise. La colère est permise. Le chocolat est permis. La colère est permise. Le café est permis. La colère est permise. L'engrais est permis. La colère est permise. Le ciment est permis. La colère permise. Aujourd'hui, blocus allégé. Les chemises sont moisies. La colère est permise. La cannelle aussi.
Nehledej za mnou, nevím kam, kam se schovávám, nevím kam. Ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ni bílá, ani čern, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani má.
Tumulte, au revoir.
Ani já, ani sen, voda, ani prach, radost, ani strach, ani bílá, ani černý oheň, ani let.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve, retour en septembre.
Ani noc, ani já, ani sen, tady, ani tam, sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno. Jsme oba tam a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám dávno, jsme oba zpět a já dávno tam, sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den, málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen tady, ani tam, sama, ani sám, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans une dizaine de minutes, le journal de Tumulte avec Guy, nous recevrons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. En attendant, musique. On va écouter un extrait d'un album intitulé Mop Machine Plays Robert Wyatt. On a sauté dessus. Et on va écouter l'interprétation qui en est faite du morceau Six Songs de Robert Wyatt par Pascal Maupeux, guitare banjo, Jean-Baptiste Réau, sax, Hugues Vincent, violoncelle, Cédric Piromali au clavier, Nicolas Lemoulec à la basse électrique, Bertrand Hureau à la batterie. Découverte. Thank you. Voilà, c'était la Mop Machine Plays Robert Wyatt. Et dans une seconde, le journal de tumulte. Le journal de tumulte avec Guy. Nous recevons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1. Et au programme, nous allons parler des retraites et peut-être un peu de foot.
Pourquoi pas l'inverse, Jean ? Ou alors la retraite des fouteux, non ? Bon, bah. Ouais, Jean, c'est moi qui commence. Alors, on parle de foot ou de retraite ? D'abord, c'est quand même ton émission, Jean. C'est toi qui anime, c'est toi qui dois nous donner des indications.
Bah, tu vois, c'est toi qui choisis, Guy.
Bon, d'accord. Bon. Bah, peut-être que pour se lancer et pour...
Je te signale que, quand même, Laurent m'a téléphoné en me disant qu'il aurait peut-être du retard et que s'il était en retard, on pouvait commencer à parler, entre nous des retraites et puis quand il arriverait...
On parlerait foot.
Voilà.
D'accord.
Tu vois le genre.
Donc, comme il est à l'heure... On peut commencer tout de suite à parler foot.
Non, mais ça montre ses priorités, quoi.
Ouais, voilà. Alors donc, 62 ans en 2018, Laurent ?
Ça, c'est à peu près sûr, oui. Alors, peut-être qu'on peut rappeler les cinq mesures annoncées par le gouvernement pour essayer, puisque tel est son projet, de rééquilibrer les comptes des régimes de retraite en 2018-2020. Les cinq mesures principales qui ont été prises, la première, celle qui est véritablement centrale, le relèvement de l'âge légal du départ à la retraite à 62 ans progressivement d'ici 2018. La deuxième, celle de l'allongement de la durée de cotisation telle qu'elle est lancée depuis la réforme de 2003 et de 41 ans, passera à 41 ans en 2020. Troisième mesure, l'âge pour bénéficier d'une retraite sans décote, c'est-à-dire l'âge à partir duquel on ne vous compte plus moins 3% par année cotisée en moins, c'est 67 ans. Et puis, quatrième point, l'augmentation du taux de cotisation des fonctionnaires, qui devrait être augmenté de pratiquement 3 points d'ici 2020. Et cinquième point, l'annonce de prélèvements supplémentaires de l'ordre de 3,7 milliards d'euros. Alors voilà les mesures, peut-être qu'on peut les détailler un tout petit peu pour en donner les conséquences, Guy.
Ouais, on peut peut-être commencer parce que bon, sur la durée de cotisation, bon, on a beaucoup parlé du chiffre phare de 62 ans et 67 pour retraite à taux plein, donc le choix de l'âge plutôt que la durée de cotisation, mais en même temps la durée de cotisation augmente aussi, et je pense que c'est 41 annuités
et demi
en 2020, ouais. Ce qui n'est pas négligeable.
On passerait de 41 ans tel que c'était programmé dans la loi précédente à 41 ans et demi, effectivement. Alors sur l'âge légal, bon, beaucoup de choses ont déjà été dites quand même. Je crois que la plupart des auditeurs sont au courant. Ça veut dire qu'on ne pourra plus liquider sa retraite avant cet âge-là, y compris si on a tout de même acquis le nombre d'années de cotisation légale. C'est-à-dire même si vous avez cotisé 41,5 années en 2020... eh bien, si vous n'avez pas 62 ans, vous ne pourrez pas prendre votre retraite. Alors, évidemment, c'est le point phare de la mesure, mais c'est aussi ce qui la rend complètement insupportable et injuste, puisque ça veut dire qu'on fait supporter l'essentiel du redressement financier à l'horizon 2020 sur les gens qui auront des carrières longues, finalement, et qui donc ne pourront plus bénéficier d'un départ à la retraite, même en ayant cotisé à taux plein.
Bon. Excuse-moi, mais pour les salariés ayant commencé à travailler avant 18 ans, a priori, hein, le départ se ferait quand même entre 58 et 60 ans.
Ah bon ? Ça, c'est donc le dispositif carrière longue est maintenu, tout de même.
Enfin, moi, j'ai ça dans le monde, hein, que j'ai sous les yeux avec les principales mesures. Alors, c'est sous réserve d'avoir la durée de cotisation actuelle, bien entendu. Hein, mais bon, si tu commences
à 18, on les a.
À 18, à 60 ans, a priori.
D'accord. Alors, donc, il reste les gens qui souhaitaient partir à 60 ans, y compris avec une retraite qui n'était pas complète, c'est-à-dire qui n'avaient pas cotisé toutes leurs annuités, mais qui pensaient que, le jeu en valait la chandelle, même avec des années de cotisation en moins et même avec les décotes, certaines personnes pouvaient trouver que le temps était venu quand même de passer à autre chose. Et deuxième point dur de cette réforme, c'est que, tout de même, pour les gens qui auront des carrières à trous, ce sera de plus en plus difficile d'avoir des carrières complètes, peut-être même à 62 ans. Et ces gens-là qui essaieront un petit peu d'aller au bout, on sait aussi qu'il y a des fortes inégalités d'espérance de vie. C'est dès le départ, compte tenu des catégories socioprofessionnelles. Deuxième réforme, l'allongement de la durée de cotisation. Là c'est assez simple parce que pour l'instant on n'arrête pas de l'allonger légalement, mais les gens ne cotisent pas plus qu'il y a 10 ans. Donc à chaque fois, maintenant on le sait, à chaque fois qu'on allonge officiellement la durée de cotisation des gens pour avoir une retraite à taux plein, on leur raconte des carabistouilles parce qu'ils n'arrivent pas à travailler plus longtemps compte tenu du fait qu'il y a du chômage. Et que les entreprises, face à une abondance de main-d'œuvre, préfèrent se séparer de la main-d'œuvre âgée, généralement payée plus cher que la main-d'œuvre jeune, puisqu'elle a bénéficié de salaires à l'ancienneté, et non seulement payée plus cher, mais en plus n'ayant peut-être plus les compétences de toute dernière heure dont peuvent bénéficier les jeunes sortis du système scolaire. Bon, donc là encore, c'est un pari qui n'est pas du tout réalisé, c'est-à-dire qu'on prétend que ça va être un des leviers du rétablissement de l'équilibre, comme l'âge légal d'ailleurs poussé à 62 ans. Certains ont calculé que si véritablement les travailleurs allongeaient leur durée de travail jusqu'à 62 ans, c'est-à-dire s'ils n'étaient pas au chômage, il y aurait un million de travailleurs en plus au travail. Et là, personne ne nous dit comment, d'ici 2016, on va créer un million d'emplois.
Donc un million de chômeurs en plus. Ouais, c'est vrai, le taux de chômage à 60 ans actuellement, enfin au moment de départ en retraite, c'est plus de 60%, je pense. Hein, c'est ça. Mais alors bon, j'y crois pas une seconde, mais un des arguments justement pour défendre les 62 ans du gouvernement, c'est de dire que reculer cette barre d'âge légal de départ à la retraite, ça va permettre de repousser cette frontière limite des 60 ans, notamment pour les employeurs, et donc peut-être d'être plus favorable à l'emploi de personnes qui ont entre 50 et 55 ans. Il n'y a pas cette barrière symbolique des 60 ans. Enfin, c'est un des arguments qui est avancé pour défendre cet âge de 62 ans.
C'est un argument qui n'est pas de complète mauvaise foi. C'est vrai que quelqu'un qui est tombé au chômage à 50 ans ou à 55 ans a beaucoup de mal à retrouver du travail aussi, parce que pour un employeur, la durée ou la perspective qu'il a devant lui peut paraître un peu courte pour réinvestir, entre guillemets, dans la formation de ce travailleur, dans l'apprentissage de l'entreprise et de ses méthodes, etc. Mais ce serait un argument qui serait valable si on était au plein emploi. Bon. Or, on est éloigné du plein emploi et ce qu'on disait tout à l'heure risque de continuer à dominer le tableau. C'est-à-dire l'arbitrage qui sera fait entre des travailleurs âgés et trop payés relativement à des jeunes qu'on peut payer moins et qui viennent de sortir du système scolaire. Donc, tant qu'on ne dit pas comment un pays comme la France peut créer 1 million d'emplois dans les 6 ou 7 prochaines années, il me semble bien qu'on aura raconté des carabistouilles et que grosso modo, à la place de ça, comme tu le dis, on aura du chômage. Et donc les gens, au lieu de toucher leur retraite, toucheront des indemnités chômage pour aller vite, qui sont nettement moins généreuses que les retraites. Ou alors ce sera les jeunes qui poireauteront à l'entrée du marché du travail, qui eux ne seront même pas couverts pour la plupart par les indemnités chômage. Donc même si on regarde le plan tel qu'il est annoncé, bouclé financièrement par le gouvernement, on n'est même pas sûr que ces hypothèses peuvent se réaliser. Et encore, ce plan n'est-il bouclé qu'à l'horizon 2020 ? C'est-à-dire que les chiffres qui sont avancés par le gouvernement, les 45 milliards d'euros à trouver à l'horizon 2020, ben ils sont trouvés pour 2020, mais après, il n'y a rien du tout. C'est la feuille blanche. En particulier, l'effet de l'allongement à 62 ans, du recul à 62 ans de l'âge légal, est censé rapporter 20 milliards d'euros en régime de croisière à partir de 2020. Hein, si ça marche, hein, encore une fois, compte tenu de tout ce qu'on a dit tout à l'heure, il n'est pas du tout évident que ça marche. Mais 20 milliards d'euros d'ici 2020, or après, il n'augmente plus en charge. Et après, jusqu'à 2040, si on suit les projections du COR, c'était 100 milliards d'euros qu'il fallait trouver. Donc, on en a trouvé 45 pour 2020, et encore très hypothétique. La suite n'est pas du tout racontée. On ne nous dit pas, disons, les 60 milliards restants, comment ils pourraient être abondés.
Il y a un des chiffres du COR, si je ne me trompe, le comité d'orientation des retraites, qui dit que dans 20 ans ou 25, le nombre d'annuités moyen que les gens auront à l'issue, enfin à l'âge où ils pourront prendre la retraite, c'est 37. En fait, ce qu'on a toujours établi et qui a été démoli ces dernières années, c'est 37 ans, et donc ils auront forcément une décote. Donc l'objectif, en fait, c'est baisser les pensions.
Alors, ça n'est pas annoncé comme un objectif, mais on peut le croire que c'est le seul véritable levier qui est actionné. Simplement, on ne l'actionne pas franchement, on avance masqué, en prétendant que les gens vont pouvoir cotiser plus. Et effectivement, hein, ce qu'on constate dans les statistiques depuis 10 ans, c'est que la durée de cotisation des gens n'augmente pas, hein, même avec les réformes qui ont été mises en place. D'ailleurs, le seul endroit où ça peut véritablement augmenter, c'est dans la fonction publique.
Ouais, c'est ça.
Puisque dans la fonction publique, bien entendu, si vous décidez de garder votre poste, eh ben vous pouvez l'occuper jusqu'à ce qu'on vous foute dehors. Bon, mais c'est-à-dire l'âge limite dans la fonction publique qui doit être la plupart du temps 65 ans.
Ouais, bah maintenant ce sera 67.
Donc ça, c'est possible pour un fonctionnaire. Mais pour un travailleur du privé, au sein du rapport salarial dans une société capitaliste, c'est pas vous qui décidez de garder votre emploi. C'est les projets de l'entreprise et des actionnaires qui se demandent si ce que vous faites est rentable, intéressant, si ça rapporte du 15% par an. Voilà.
Ouais, bah, pour peut-être resituer, bon, revenir sur le problème, hein, le problème qui est posé, et vérifier est-ce que ce problème existe vraiment. Donc il y a un problème de financement du système de retraite, tu l'as dit, hein, il manque X milliards, et il y a un problème d'un nombre d'actifs insuffisant, enfin c'est sans doute lié, insuffisant par rapport au nombre de retraités pour financer le système de retraite actuel. Est-ce que, bon déjà, hein, ce postulat de départ est vérifié, et est-ce que donc les mesures annoncées vont pouvoir remédier sur moyen terme, long terme, à ces difficultés ?
Le constat démographique, si on prend les chiffres du corps, bon, il n'est pas trop contestable. C'est vrai que le ratio retraité sur nombre d'actifs, si on ne modifie pas les règles, va augmenter. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a dit ça ? Bon. Si le corps a calculé que si on conservait les règles de financement actuelles du système jusqu'à l'horizon 2040, on serait devant un manque à financer de 100 milliards d'euros par an. Toute la question, c'est de savoir comment on le finance. Hein ? Si ce que l'on veut, si ce que l'on souhaite, c'est de conserver aux retraites, les niveaux de vie que nous connaissons actuellement, il faut faire un effort de financement qui est assez simple à calculer. Il faut trouver les 100 milliards en question en 2040. Alors, le rapport du corps est sans doute un petit peu optimiste sur un point. C'est que lui, il prévoit que finalement le PIB aurait quasiment doublé d'ici 2040, parce qu'il prend des hypothèses de gains de productivité assez élevés, de l'ordre de 1,5 à 1,7% par an. Et en plus, il fait une énorme hypothèse. Il pense qu'il suffit de faire des gains de productivité pour avoir de la croissance, et il ne demande pas comment va se former la demande globale dans l'économie pour absorber cette production supplémentaire. Donc il n'y a aucune réflexion sur la génération de la demande dans l'économie. Donc ces projections sont sans doute très, très optimistes. Mais en tous les cas, si on le décidait vraiment et si ce qu'on souhaite vraiment, c'est se payer des bonnes retraites, il faut accepter de les financer. Ça peut se faire de deux manières, soit en prélevant sur les revenus du travail, soit en prélevant sur les revenus du capital. Et voilà, il suffit ensuite d'annoncer l'équation. Et c'est quand même pas 100 milliards si le PIB augmentait, disons peut-être pas multiplié par 2, mais s'il était multiplié par 1,5 d'ici 40 ans, 100 milliards, ça représente 2 à 3 points du produit intérieur brut. Bon, si c'est ça qu'on veut, c'est pas très grave. Et puis c'est pas de l'argent qui tombe dans un puits sans fond. C'est de l'argent que les actifs filent aux inactifs pendant qu'ils sont actifs, eux, et qu'ils retrouvent quand ils sont inactifs. Donc, c'est parfois, il faut rappeler des choses aussi basiques que ça. C'est pas de l'argent qu'on nous pique pour que quelqu'un parte en vacances avec, j'en sais rien, aux Bahamas, enfin, quand même, Madame Bettencourt. Le problème se pose pas du tout en ces termes. Donc, il s'agit uniquement de se poser la question, dans l'ensemble de la société, quelle est la part de revenus qu'on veut transférer dans le futur, d'une certaine manière. Et j'insiste, qu'on veut transférer dans le futur d'une manière beaucoup plus sûre que si on épargnait. C'est pas de l'épargne, c'est vraiment un transfert contractuel direct entre les générations. Et donc, il a réellement lieu une fois qu'il est énoncé. Bon. Donc ça, c'est... Il n'y a pas d'autre solution. Donc ce dont il faudrait discuter... ce n'est pas des faux remèdes que propose le gouvernement, c'est qui et sur qui on prélève, comment on le prélève.
Alors, il y a une des interprétations des mesures gouvernementales qui consiste à dire que en fait, les mesures prises par le gouvernement visent non pas à équilibrer les comptes des caisses de retraite, sur le long terme, mais vise à donner un message immédiat, à faire face aux conséquences de la crise et donner un message immédiat au marché financier. C'est-à-dire en montrant que la France est capable de faire payer la note aux salariés, et plus particulièrement les jeunes et les femmes.
Oui, alors les deux s'épaulent, quoi. Et c'est vrai que dans la période actuelle, comme la pression est mise par les marchés financiers sur les gouvernements, si on prend cette pression pour argent comptant, et qu'on décide de la désamorcer par des signaux intelligibles par les marchés financiers, bah, les seuls signaux intelligibles par les marchés financiers, c'est évidemment ceux que le gouvernement leur a envoyés, c'est-à-dire les choses qui apparemment sont simples à comprendre. On augmente, on recule la durée légale, et puis on allonge la durée de cotisation, sans qu'effectivement les marchés financiers aient l'heure de s'interroger sur la faisabilité même de cette chose dans une période d'absence totale de croissance économique pour l'instant. Mais effectivement, les deux sont bien congruents. Alors il faut quand même annoncer qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises pour dégager du financement. Au-delà de la question des 62 ans, les deux mesures principales qui ont été prises pour dégager de nouveaux financements, c'est l'augmentation. Alors bon, c'est un peu compliqué. L'augmentation du taux de cotisation sociale des fonctionnaires, qui en réalité se traduira par les fonctionnaires uniquement par une baisse de leur salaire net, parce que l'État n'a pas de caisse de retraite. L'État ne prend pas dans la poche des fonctionnaires pour financer la retraite des fonctionnaires pensionnés. L'État paye ses fonctionnaires tout le temps et il les paye moins cher quand ils sont en retraite que quand ils sont en activité. Bon. Et donc dire qu'on augmente les cotisations sociales des fonctionnaires, ce n'est pas pour aller les donner aux retraités de la fonction publique. C'est simplement pour baisser les cotisations sociales des fonctionnaires. C'est pour baisser les salaires nets des fonctionnaires. Donc ce type d'économie avoisinerait tout de même, en régime stabilisé à partir de 2020, 5 milliards d'euros par an. C'est donc supérieur aux mesures fiscales que le gouvernement a annoncées pour faire le complément et qui, elle, était de 3,7 milliards.
Parce que ce n'est pas une hausse non négligeable. Hein. C'est 7,85 à 10,55, quasiment 3% de hausse de cotisation. Voilà.
Tout à fait. Et si, en plus, on programme un gel du salaire des fonctionnaires sur 3-4 ans, avec un taux d'inflation d'1,5, en fait, on vient d'annoncer aux fonctionnaires une baisse de leur pouvoir d'achat de 10% sur 5 ans, à peu près. Donc ça, c'est quand même, c'est pas rien. Il y a des pays qui l'ont fait plus bêtement que nous, en annonçant 10% de baisse du salaire des fonctionnaires. Là, on ne l'a pas dit comme ça, mais ça va revenir exactement au même. À côté de ça, bon, les mesures fiscales qui ont été prises font parfois un petit peu pâle figure. Alors, grosso modo, sur les 3,7 milliards qui ont été annoncés, il y a quand même 2 milliards d'euros qui viennent d'un abaissement ou d'une diminution des réductions de cotisations sociales qui étaient accordées aux entreprises sur les bas salaires. Bon, il y a 25 milliards, je le rappelle tout le temps, mais il y a tout de même 25 milliards d'allègements de cotisations sociales qui sont accordés aux entreprises sur les bas salaires. Et sur ces 25 milliards, donc on va en écorner 2,2 milliards, mais pour une très bonne raison, et on est un peu stupéfait de découvrir que ça existait, et on a l'impression d'avoir le bonheur de le supprimer, mais c'est que grosso modo, il y avait un peu une entourloupe, comme ces ristournes n'étaient pas annualisées. Les entreprises avaient pris l'habitude de payer plus tôt des 13e mois que d'augmenter les salaires de leurs salariés. Et donc, bon, quand vous voulez augmenter un bas salaire, quelqu'un qui touche des bas salaires, plutôt que de lui augmenter son salaire et de prendre le risque de sortir du dispositif bas salaire et donc de prendre le risque de perdre les allègements de cotisation sociale, il vaut mieux lui payer un 13e mois, parce que c'est le 13e mois, vous bénéficiez tout de même des abattements de bas salaire. Donc le gouvernement a décidé d'annualiser pour éviter ces stratégies.
Il faut mieux parler foot quand même.
Donc on s'aperçoit que ces 2 milliards, c'est presque pas un prélèvement nouveau, c'est le rattrapage d'une énormité qui n'aurait jamais dû se produire.
Oui, et puis il y a des mesures anecdotiques. Le taux de la tranche la plus élevée de l'impôt sur le revenu est relevé de 40 à 41%.
C'est violent.
Un gain estimé de 230 millions d'euros.
Tout à fait. Donc voilà. Mais non, heureusement qu'il y a les fonctionnaires pour faire la pointe, puisque ça fera quand même 25 fois plus dans les caisses de l'État le relèvement des cotisations sociales des fonctionnaires. Là, on voit bien l'État néolibéral en plein fonctionnement, c'est-à-dire face à des difficultés budgétaires, il n'est pas question de se remettre à lever l'impôt. C'est l'inverse, il faut supprimer les dépenses. Et parmi les dépenses, il y a les salaires des fonctionnaires.
Mais on peut rassurer les auditrices, les auditeurs, hein, ça ne concerne pas les footballeurs. Hein.
Mais ça peut quand même concerner les auditeurs de PFM qui gagnent, si parmi nos auditeurs nous avons un couple sans enfant, qui gagne 160 000 euros par an, je l'avertis tout de même de mettre tout de suite de côté, parce que son impôt va augmenter de 65 euros l'année prochaine. Donc s'il a été un petit peu imprévoyant, il va se retrouver devant de graves difficultés financières. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure là-dessus ? C'est tout de même, pour l'instant, une réponse qui est parfaitement mensongère au problème de rééquilibrage des régimes de retraite, comme le sont d'ailleurs les plans de rigueur qui sont votés aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils se basent sur des projections complètement fantaisistes de redressement de la croissance économique, de rentrée fiscale, etc. Donc toutes les mesures qui sont annoncées, soi-disant, pour reprendre en main la situation financière des comptes sociaux ou des comptes publics, vont très probablement, d'ici 6 mois ou 1 an, se révéler fausses. Peut-être 2 ou 3 ans pour les retraites, ça prendra un peu plus de temps, mais se révéler fausses. Et donc on va repartir pour un tour. Parce que tout de même, il y a un moment, les financiers, eux, ils lisent les journaux et ils lisent les enquêtes produites par les ministères des Finances et ils vont être les premiers, eux, à se rendre compte que rien n'a été fait pour redresser sincèrement les finances publiques. Et là, on aura un nouveau tour de crash obligataire et tout le tralala.
À l'écoute de Radio PFM sur le 99.9. Magazine Tumult. Et c'est Konono numéro 1 que l'on entend. Extrait de leur dernier album, Konono, que l'on avait pu voir à Arras, invité par Radio PFM lors du 25e anniversaire. Journal de Tumulte suite avec Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'université Lille 1, et puis Guy. Alors on parlait des retraites.
Je peux dire aussi enseignant à l'université de football d'Outreau, peut-être, non? Non, on parle toujours des retraites.
On parle des retraites. Ouais, ouais.
Alors, oui, retraites. Non, moi, ce dont je voulais parler, et notamment avec Laurent, avoir son avis là-dessus. Bon, toi, Jean, tu as dit que cette réforme, c'était un message au marché financier, hein, pour montrer que la France était capable de prendre des décisions pour apurer ses comptes, etc. C'est aussi... C'est lié à un message à la population, à ceux qui travaillent ou à ceux qui sont chômeurs, précaires, fonctionnaires. On arrête quand même cette idée de... Bon, tu disais hors antenne de la société du troisième âge, mais c'est même pas ça. Enfin, c'est d'une société où on essaie quand même de s'émanciper du travail. Hein, le travail n'est pas forcément une fin en soi. On peut l'utiliser. Apporter sa contribution au fonctionnement de la société. Mais là, on revient, on rompt avec ce système parce que bon, on nous parle de l'allongement de l'espérance de vie, etc. Mais tout au long du XXe siècle, l'espérance de vie a augmenté et la durée du temps de travail a baissé. Donc pourquoi on arrive aujourd'hui à un moment où ça, ce serait plus possible ? L'objectif, quand même, bon, c'est sans doute de travailler moins, c'est de vivre peut-être avec plus de temps libre, de vivre mieux. Et ça, le message, il est clairement donné, c'est terminé. Donc tout le monde doit payer... Alors, la crise, hein, effectivement, tu disais ça, Jean, mais quelle crise ? Et puis surtout, accepter de le faire dans les conditions, des conditions qui se dégradent énormément. La précarité, ça a été dit, elle va s'accumuler. Donc, pour obtenir la retraite, Laurent, tu le disais, il y aura plus en plus de carrières à trous, etc. Donc, on s'inscrit vraiment dans cette logique, quoi. Vous allez travailler toute votre vie, finalement. Bon, vous aurez peut-être des périodes de chômage, etc. Limite, profitez-en pour je sais pas quoi, mais sauf que, bon, quand on est au chômage, on n'a pas d'argent. Donc moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans cette logique, parce que, bon, on n'a pas non plus parlé quand même de... en fin de compte, des disparités, hein, entre les salariés. L'espérance de vie, hein, elle a certes augmenté, mais quand on regarde l'espérance de vie en bonne santé, elle n'est pas la même pour tout le monde. Hein. Jean, tu me disais, l'espérance de vie en bonne santé pour un ouvrier, c'est... quand on dit en bonne santé, c'est-à-dire sans handicap, sans...
C'est de l'ordre de 63 ans.
63 ans. Bon, ouais. Pour un cadre, c'est 69, 70 ans. Ouais. Bon, et tout ça, on ne le prend pas en compte. On a vraiment le sentiment que... Donc finalement... Que ces mesures sont injustes, foncièrement injustes.
Et je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Je pense que ces retours, volonté de maintenir une société, comme dit Serge Latouche, travailliste, quoi, c'est-à-dire absolument enrôlée par le travail, mais plus que ça, c'est-à-dire par le cycle infernal. Travail, consommation et toute l'organisation qui va autour du maintien d'un rythme comme ça. Parce que ça devient de plus en plus compliqué dans la vie moderne d'arriver à tout mettre bout à bout. Il y a les trains de transport, il y a les grandes surfaces qu'ils ont à la périphérie des villes, il y a les services collectifs, il y en a dans tous les coins. Il faut faire de plus en plus de démarches. Donc c'est volonté de maintenir absolument comme corset organisationnel tout ce qui est structuré par le travail, dans une économie... capitaliste, qui plus est. Donc moi, je suis parfaitement convaincu qu'il y a derrière ça la volonté de maintenir cette colonisation de l'imaginaire. C'est encore un terme de Serge Latouche. Et donc d'essayer d'exclure toute autre conception de la vie en société. Il faut se souvenir comment le patronat avait, je crois que c'est Laurence Parisot, ou c'était peut-être Antoine Sellière, avait fustigé les 35 heures en disant qu'il ne voulait pas d'une société de bricoleurs du dimanche. C'est-à-dire que l'idée même d'une conquête d'autonomie par nos concitoyens, qui auraient pu, d'une certaine façon, on pourrait dire, échanger du travail salarié et de la consommation marchande contre de l'autoproduction, du temps gagné pour effectivement bricoler chez eux, s'occuper correctement de leur logement, etc. C'était bien ce deal qui était contesté. C'était bien cet échange possible de l'autoproduction, de l'autonomie contre quelque chose qui passe par la sphère marchande. Parce que quelque chose qui passe par la sphère marchande, c'est 20 à 30% de profit gagné sur ce travail-là. Tandis que quand vous bossez chez vous, vous ne laissez pas 30% de la valeur des tapisseries refaites dans le pot commun des profits. Bon, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est l'incapacité, enfin, c'est pas la capacité, c'est peut-être aussi une volonté politique de contourner toute solution collective. Hein. Parce que là, il s'agit ni plus ni moins que de s'organiser ou de continuer à s'organiser collectivement pour trouver nos systèmes ingénieux d'échanges entre nous, de pouvoir d'achat entre différentes générations. Donc c'est la volonté de casser l'ingéniosité collective pour lui substituer la logique du marché, au bout du compte. Parce que là, il faut quand même, on n'en a pas parlé, mais c'est clair que une fois annoncées toutes ces mesures, ça va être du pain béni pour les compagnies d'assurance. Parce que ceux qui pourront, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh ben, ils vont augmenter leur taux d'épargne pour essayer surtout de ne pas se retrouver à 62 ans ou à 67 ans. Bon. Donc tous ceux qui pourront épargner essaieront de ne pas se retrouver dans cette situation où pour eux ça se traduirait réellement par un allongement de leur durée de travail. Ce qui veut dire qu'il y a une propension à payer les retraites. Ceux qui le pourront continueront à se payer une retraite. Correct. Et ils sont prêts à le faire. Ils sont prêts à le faire, mais ils vont aller voir des compagnies d'assurance privées pour le faire. Donc c'est ça aussi qu'il y a derrière ce système. La volonté véritablement de ne plus vouloir que les choses soient organisées politiquement et collectivement. Je voudrais peut-être donner un élément intéressant, parce que 3% de PIB en plus, c'est ça qu'il faudrait qu'on réussisse à faire collectivement. Bon. Est-ce que c'est beaucoup ? Il suffit de dire la chose suivante. Aux États-Unis, les dépenses de santé des Américains, c'est 4 points de PIB en plus que les dépenses de santé des Français. 4 points de PIB en plus. Les Américains, en moyenne, consacrent à la santé. Bon. Mais ce n'est pas des dépenses qui sont financées de manière collective. Donc ceux qui se les payent, c'est les riches. Mais ça veut dire qu'il y a une volonté tout de même de se payer de la santé ou des retraites. Bon, la seule question, c'est de savoir, est-ce qu'on le fait intelligemment et collectivement ? Et nous, qui, grâce à notre système collectif de santé, contrairement à ce que disent tous nos gouvernements, les néolibéraux, nous, parce que nous avons un système socialisé de financement de notre santé, nous ne connaissons pas ces dérapages de la santé. Autrement dit, notre système, contrairement à ce qu'on nous raconte, il connaît beaucoup moins de dérapages des dépenses que le système américain. Puisqu'il est contrôlé politiquement. Donc, nous avons fait des économies sur notre santé, d'une certaine façon, et nous avons un système jusqu'ici relativement rationnel et relativement économe, relativement modeste. Utilisons les marges de manœuvre que les Américains ont utilisées pour gaspiller leur santé dans le paiement des honoraires de chirurgiens déjà richissimes. Utilisons cet argent à financer nos retraites ensemble. Il n'y a aucun problème économique derrière tout ça. C'est vraiment de l'organisation politique. Et...
Mais alors, bon, on est loin aussi de l'idée de partage du temps de travail, etc. Là, c'est quand même faire travailler les vieux et de mettre les jeunes au chômage, quelque part, hein, compte tenu qu'il n'y a pas d'emploi. Tu parles des États-Unis, ça me fait penser à quelque chose. Bon, on nous bassine aussi avec, la France par rapport aux autres pays européens, etc. C'est le système le plus favorable aux salariés, etc. Puis on s'aperçoit que les mesures annoncées vont faire de la France, finalement, le pays où les conditions de départ à la retraite vont être les plus dur hein, par rapport à l'Allemagne, par rapport à au Royaume-Uni. Royaume-Uni, c'est 68 ans, l'horizon 2046. Hein, donc en France, c'est vraiment ce sont des mesures fortes.
Parce que, qui vont monter très rapidement.
Et très rapidement, hein, avec un trimestre par an. 67 ans, taux plein.
4 mois. 4 mois par an.
4 mois par an, voilà. Comment ça, 4 mois par an, Jean ?
Par un trimestre.
Oui, 4 mois, oui, d'accord. Enfin bon, c'est rapide, quoi. Hein. Donc finalement...
Et pour un pays qui n'a pas les mêmes problèmes démographiques
tout à fait,
que ces pays-là. Ouais. Hein, parce qu'on est très loin quand même des projections démographiques de l'Italie, de l'Allemagne ou de l'Angleterre. On a encore à peu près une moyenne de 2,2 enfants par homme en France. Par femme aussi, c'est vrai. Alors qu'en Italie, c'est 1,3. Et en Allemagne, ça doit être 1,4, 1,3 aussi. Donc, on n'est tout de même pas confronté aux mêmes difficultés que ces pays qu'on nous donne en exemple.
Alors, il y a peut-être, quand on voit tout ça, Jean, hein, il y a peut-être parfois envie de dire... qu'est-ce qu'il a dit déjà, Anelka ? Va te faire... je t'emmerde.
Quelle transition.
Je t'emmerde, va te faire enculer. Hein, c'est ça, je crois, hein, qui a été dit. Mais bon, non, mais Jean, avant parler foot, quelques rendez-vous quand même.
Ouais, les rendez-vous, c'est les rendez-vous de contestation de ces mesures gouvernementales. C'est évidemment le jeudi 24 juin dans la région à Arras. Un rendez-vous de manifestation le matin à 10h, place de la gare. Et l'après-midi, manifestation régionale à Lille, 14h30, porte de Paris.
On peut dire que...
manifestation totalement unitaire. Hein,
moins info. Appelé au 15 juin, qui a quand même...
qui est tenté quand même.
Une mobilisation, une mobilisation qui n'est pas un échec, hein, qui était quand même significative, mais en décalage par rapport à toutes les autres organisations syndicales. En tout cas, donc, la possibilité de faire du Anelka dans les rues jeudi.
You gotta hear it every goddamn quarter hour. Or take a hike, jump a bag, walk by junk bike if you like, I don't mind.
There's a giggling, tippet lady looking pretty, looking shady in the red lights in a row in the window. A greasy green grocer shows her a fistful of food, it's frivolous fruit. Blow my back a sexy one, but she knows what's in the can. Keep your hands off, dirty man. And then fuck it, I pickpocket, picked your pocket. Brush your parking tickets, all the damage done. The money gone and you got none. Well, that's a pity, a bummer in the city where a desperate dog's doggy duty goes to dirty ditty. It sure looks sad, getting kicked like mad. People always act as if frauds are all bad. Well, what would you expect when I tell that a smell from this hellhole is one old good old concrete fact that's steering down its swell soul just like that?
C'était Tortoise plus ZX. Journal de tumulte, Guy Laurent. Guy, vous voulez absolument parler foot.
Bah déjà, on peut dire qu'il y a une émission quand même sur PFM. Bah
déjà, on est triste parce que rien à foutre, c'est fini.
Ah non, je pense qu'ils vont prolonger. Hein. Ils vont sans doute...
Ouais, mais Laurent, il ne connaît pas.
Ouais, alors voilà.
Ah, il n'écoute pas PFM parce qu'il habite...
Non seulement il n'écoute pas PFM, mais il ne lit pas La Voix du Nord et il ne regarde pas France 3. Ah non, comment ça s'appelle France 3 Nord-Pas-de-Calais. Ouais. Voilà, puisque bon, à l'occasion de cette Coupe du Monde, mais c'est... c'était déjà le cas lors de la Coupe d'Europe, championnat d'Europe, il y a 2 ans. Donc, eh bien, des animateurs qui, à l'occasion des matchs de l'équipe de France, assurent une émission exceptionnelle qui s'appelle Rien à foutre, hein, du commentaire. Rien à foutre.
Rien à foutre.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Rien à foutre. Rien
à foutre. Ben, je vais leur suggérer de... Ouais, bon. Donc, bref, hein, rien à foutre. Et donc commentaire en décalé des matchs de l'équipe de France avec des informations quand même qu'on n'a pas l'habitude d'entendre quand on regarde un match de foot à la télé, un regard sur la situation sociale, économique des pays, etc. Et puis bon, une analyse critique du jeu, puis aussi de la déconnade, hein, on peut le dire. Hein. Et donc,
c'est le bon mot, déconnade.
Voilà,
aussi.
C'est ça. Hein. Donc, cette émission a du succès. Elle a fait la une des pages d'Arras de La Voix du Nord. Hein. Et puis, elle a fait la une aussi d'un journal régional France 3. Qui
deux. Voilà, moi j'ai vu seulement l'édition du midi, mais il paraît qu'il y avait le soir aussi.
Voilà, un reportage. Hein, donc, grâce au foot, on parle de PFM partout dans la région et dans le monde, hein, puisque bon, c'est aussi écouté sur Internet. Donc ça, c'est une première chose. Donc oui, Jean, ils vont continuer. Hein, je pense qu'ils vont, commenter un huitième de finale, peut-être un quart, peut-être l'Algérie si elle se qualifie, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais sur les 23 joueurs algériens hein, qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde, il y en a 17 qui sont nés en France. Et je pense qu'il y en a... Alors là, je dis au hasard, mais c'est aussi énorme. Je pense qu'il y en a une quinzaine qui ne parlent que français.
Oh bah, on sait quelle équipe on va pouvoir supporter.
Voilà, hein, c'est l'équipe de France. Puis comme il n'y a pas la Pologne hein, bon, et l'Italie, ils ont abandonné.
Quoi
Bref, donc...
Moi, je peux soutenir l'Algérie, comme tout le monde. Là, hein.
Ouais.
L'Uruguay.
Ouais. Pourquoi l'Uruguay ?
Et l'Italie.
Oui, parce qu'il est...
Et l'Italie. Et peut-être même l'Argentine, parce que...
Ton père, il est né en Uruguay. Voilà. Et l'Argentine, alors ?
Parce que, en fait, cette famille italienne qui a immigré en Amérique latine a immigré en partie en Uruguay et en partie en Argentine.
Et l'Algérie ?
L'Algérie, c'est pour les mêmes raisons que nous tous. Les joueurs algériens...
On soutient les natifs du territoire français.
Ouais. Mmh. Bon, on s'en fout, ça. Genre,
bon, moi, c'était la Belgique que je pouvais soutenir, et malheureusement, elle n'était même pas
qualifiée. Ce qui est dommage. Donc, il y a eu une anecdote, justement, dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai entendu la fin. Hein, c'est-à-dire que c'est dommage qu'il n'y ait pas la Belgique, parce qu'avec la Belgique... Qu'est-ce qu'il a sorti comme bêtise, là, le François qui anime oui, la Belgique, il n'y avait pas de moule avec la Belgique. Hein. Parce que bon...
Déconne-nous.
Ben oui, parce que c'est des poules, hein, on parle de poules. Hein, voilà,
oui, voilà.
Donc c'était pour donner un peu une idée du niveau de rien à foutre. Non, mais c'est à écouter. Alors le débat, c'est est-ce qu'il faut écouter rien à foutre en regardant le match ou pas, hein. Donc moi j'ai d'abord écouté sans regarder le match, j'ai trouvé que c'était intéressant, hein, parce qu'on connaît le résultat, mais bon, on se détend. Hein. Et en regardant le match c'est plus compliqué, avec Jean on a essayé, bon c'était le deuxième match de l'équipe de France, c'était un peu plus difficile de regarder le match de l'équipe de France et de les écouter. Voilà, alors bon, le foot quand même déjà pour dire qu'effectivement, avec toutes ces histoires, ben on parle que de ça, quand même. Hein, c'est quand même assez scandaleux de ce point de vue-là. Il y a quand même des réformes, hein, on en a parlé assez longtemps, là, et qui sont plus qu'inquiétantes. Mais ben, la Coupe du Monde, il fallait bien trouver un moyen de parler d'autre chose. Alors si la France jouait bien, hein, si ils allaient se qualifier, ils allaient jusqu'à la finale, ben, il n'y avait pas besoin de trouver des petites histoires. Mais à partir du moment où ça ne se passait pas bien, bon, ben, il faut trouver quelque chose, quoi, hein. Et on peut dire merci à l'équipe, quand même, au journal, au quotidien sportif, hein, pour vraiment lancer la polémique et titrer. Je pense que ça devait être le fantasme d'un des journalistes de l'équipe. Il y a quand même eu, c'était vendredi, je pense, hein, la une de l'équipe, en gros. Donc les propos d'Anelka, je crois, c'est « va te faire enculer », Domenech, « va te faire enculer » ou « je t'emmerde », enfin je sais plus, les deux quoi. Et à partir de là, c'est tout. Hein, on est parti dans ce système.
Ce qui est incroyable quand même, c'est que bon, les raisons de l'équipe, c'est de vendre leur journal. Hein,
bien sûr.
Avec ça, ils ont épuisé, leur stock, ouais. Et c'est vraiment un coup journalistique. Hein. Mais quand même, on ne sait même pas la réalité des propos tenus par par Anelka dans les vestiaires. Puisque Domenech a minimisé lui-même. Bon.
Et sincèrement, on s'en fout un peu. Parce que,
ouais,
complètement.
C'est aussi ça, l'histoire de cet enrôlement qui fonctionne dans les deux sens. Hein, qui fonctionne dans le moment de l'adulation et qui fonctionne dans le moment du lynchage.
Du lynchage, quasiment. Ou
du rejet. C'est un enrôlement qui est orchestré par la société médiatique et politique, qui essaie de nous rendre complètement gaga, de nous intéresser à des choses complètement futiles. Tout ceci au nom, je ne sais pas quoi, des valeurs du sport ou des valeurs que le sport insufflerait à la société.
De l'honneur.
Alors là, c'est incroyable parce que quand on entend ça, on se dit mais bon, réfléchissons un peu, c'est quoi ces valeurs ? Enfin, ça vaudrait le coup de faire une petite interrogation écrite au ministre des Sports ou même au président de la République. Bon, alors les valeurs du sport, c'est quoi ? Dites-nous, faites la copie de bac, je pense qu'ils seront très secs, parce qu'on ne voit pas bien du sport tel qu'il est là, le sport professionnel, de quoi on peut s'inspirer, peut-être pour donner des maximes à nos enfants, disons, si ça a un sens, les valeurs, allons puiser dans le football et sortons-en des grandes maximes pour éduquer nos enfants, ça va être difficile quand même. Bon. Donc il y a une espèce de charge morale qui est mise sur le sport, qui va nous livrer je ne sais quoi, des principes kantiens de comportement. Et puis après, on s'étonne que dans un vestiaire, il y a un type qui dise enculé. Mais enfin, on ne lit pas Kant à la mi-temps dans un vestiaire, tout le monde doit le savoir. Enfin, c'est complètement délirant, cette attitude. De là, d'un vestiaire ne peut pas sortir les nouvelles tables de la loi morale. Donc cette espèce d'attente journalistique et politique de cette bouillie, il va sortir une plus-value pour la société, c'est absolument incroyable.
En tout cas, il va falloir trouver un bouc émissaire. Et là, on passe de bouc émissaire en bouc émissaire. Il y avait Domenech, mais enfin bon, Domenech, il l'a vraiment cherché, quoi. On est passé de Domenech à l'équipe de France collectivement, quoi.
Ah non, d'abord c'est Anelka, hein, quand même.
Anelka, est... puis, Anelka le... puis l'équipe.
Evra, le capitaine. L'équipe titrée, je pense, le deuxième jour. Evra confond son rôle de capitaine avec un caïd, enfin un chef de bande. Un caïd de bande, tu vois, de banlieue. Enfin, c'est,
on retrouve les propos de Finkielkraut sur France Inter. Horrible.
C'est hallucinant, quoi. Mm-hmm. Mais donc, il faut effectivement trouver un bouc émissaire. Bah,
quand on a levé la
foule... Pas la, on ne touche pas à la FIFA et à la Fédération française de foot.
Il y a tout l'instant. Ce qu'il y a derrière.
Mais ça va ressortir. Avant, l'histoire n'est pas terminée, en tout cas.
C'est en train un petit peu de quand même, s'orienter là.
En tout cas, moi, j'ai pris avec beaucoup de sympathie ce mouvement, on peut le dire, hein, des joueurs de l'équipe de France qui ont quand même refusé, c'est la première fois que ça arrive, hein, de s'entraîner. C'est un signe. Oui, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, il y a des copains qui disent...
Du syndicalisme.
Solidaire avec les prolétaires du foot. Alors bien sûr, hein, ce sont des prolétaires bien payés, mais ce sont pour moi des prolétaires. Hein. Ça reste des...
Thierry Henry, oui, parce que lui travaille vraiment avec les mains.
Non, mais ça reste des anti-Ribéry,
les autres ne sont pas vraiment des manuels. Ce sont
des
pédestriels.
Donc moi, je blâmerai jamais un joueur de foot qui gagne de l'argent, qui profite du système pendant quelques années. Un Ribéry, un Patrice Evra qui doit être lui réunionné, enfin je ne sais pas de où, peut-être pas. Enfin, des joueurs qui sont nés en Afrique, qui sont arrivés en France, qui ont galéré, etc. Je ne blâmerai jamais un de ces joueurs. Et je trouve que leur démarche, c'est quand même... assez gonflé, parce que c'est et on en vient à la notion d'honneur. Aujourd'hui, l'équipe titrée sauver l'honneur, c'est quoi l'honneur quand même, hein? On est c'est le drapeau bleu blanc rouge, c'est les poilus, etc. Donc je trouve qu'il fallait le faire, quoi, et que ce soit justement des joueurs d'origine africaine, un Ribéry qui vient d'un quartier vraiment des plus pauvres de la région, hein, du Nord-Pas-de-Calais, là, le chemin vert de Boulogne, des joueurs qui ont connu, hein, qui savent ce que c'est que les quartiers, la misère, etc. Moi, je trouve que c'est vraiment c'est intéressant.
Je comprendrais ce que tu es en train de dire et je le trouverais profondément provoque et dans le bon sens du terme. Mais j'aimerais connaître quand même les motivations, tu vois, au moment où ça s'est produit.
Est-ce qu'ils savent ce qu'ils... Ouais, oui, mais bon,
non, mais au tout. Moment où
attends,
ça s'est
un
produit...
Un joueur, c'est plus un joueur individualisé, c'est un agent de... C'est un agent, c'est un conseiller, c'est toute une infrastructure. Hein.
Oui, mais en même temps, bon, la
donc,
réaction de...
Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête au moment où ils l'ont fait? C'est sûrement pas une espèce de, comme tu le dis, de doigt d'honneur, enfin, qui aurait été bien, bien propre sur lui, vis-à-vis d'une pression indue de la République, de l'honneur, etc. Et donc des gens d'un culot incroyable. Qui tout d'un coup se disent ben non, de toute façon tout ce cirque ça pèse pas sur nous et on peut leur montrer que bon, si mais tout ça c'était vrai, ouais. Je serais prêt à dire bravo, c'est les pourfendeurs de la société du spectacle et c'est les premiers à renverser
tu parles de doigt d'honneur quand Galas fait un doigt d'honneur au journaliste de TF1 qui vient de l'interviewer après le match de l'Uruguay, c'est quand même étonnant. TF1 c'est le gagne-pain, hein, de l'équipe de France, c'est la chaîne qui finance, c'est étonnant. Il y a quand même une solidarité entre les joueurs, parce que Anelka, il risque, enfin je sais pas jusqu'où ça va aller, mais il risque d'avoir des problèmes avec son employeur, avec son club, hein, qui veut justement rendre propre un petit peu son équipe, et les joueurs qui se sont mouillés se mettent aussi en danger par rapport à les joueurs de l'équipe de France, par rapport à leur club, par rapport à leur source de revenus. Il y a une forme de solidarité, on peut pas le nier.
Ouais. Bah, faut attendre la suite, hein. Moi, j'aimerais bien, tiens, Laurent, qu'on discute dans une prochaine émission sur l'économie du foot, parce que le nouveau foot, on invitera aussi Thierry.
Et puis on invitera les
spécialistes football, Thierry Crépin.
On invitera les animateurs de Rien à foutre, qui ont aussi un regard alternatif sur le foot.
Bah, c'est ainsi que se termine ce journal de tumulte.
Avec Jean, un petit mot quand même sur le foot, la FIFA, hein, qui l'organise, qui regroupe les fédérations de football du monde, a plus d'adhérents que l'ONU. À la FIFA, il y a Israël, il y a la Palestine, hein, il y a la Chine, il y a Taïwan. C'est quand même aussi une institution étonnante, quoi, du point de vue géopolitique.
Eh bien, salut. C'est ainsi que se termine ce magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 23h30 et sur le net radiopfm.com. Semaine prochaine, salut !